Vous écoutez France Musique.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Alex Taylor, je suis votre chef de cabine. Au nom de notre commandant de bord, qui est ce soir Louis Bénèche, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous assurons de votre plaisir et de votre confort au cours de ce vol de France Musique, pendant lequel nous allons survoler de nombreux paysages, dans ceux du Pakistan, de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Orléans et de l'île de Ré. Vos téléphones portables doivent maintenant être éteints, et ce jusqu'à l'arrivée à notre générique de fin. Veuillez attacher et ajuster votre imagination, redresser votre curiosité, et en vue de notre décollage immédiat, préparez-vous à nettoyer les ronces dans les potagers de vos grands-parents. Ladies and gentlemen, my name is Alex Taylor. It's a real pleasure to have you today. Voyage en moi majeur, ravi de vous retrouver ce dimanche soir sur France Musique avec le paysagiste Louis Bénèche, King Louis, comme on vous appelle chez moi, parce qu'en fait on a vécu des vies, on a plus ou moins le même âge, on a vécu des vies parallèles. Vous, français, vous êtes parti au début des années 80 vivre chez moi, et en Angleterre on vous appelle, j'ai lu ça dans les articles, King Louis.
Dans un article.
Non, mais c'est quand même.
Il y a très longtemps.
C'est pas tous les jours.
L'heure d'erreur, mais c'est vrai que le prénom Louis a été assez communément employé chez nos rois. Donc, on mettra ça sur l'habitude française.
Alors, d'emblée, je vais vous poser la question. Quelle est la différence, je n'ai jamais vraiment compris, entre un jardin à l'anglaise et un jardin à la française? C'est une question d'ordre, de laisser vivre la nature, de vouloir dompter la nature. C'est quoi la différence?
Non, les différences, c'est des préjugés. Les vocables français du jardin à la française, c'est le 17e français, c'est des jardins équilibrés, organisés, taillés. Ce que le français pense du jardin à l'anglaise, c'est les paysages de Repton et de Capability Brown, c'est de la grande campagne et c'est une idée de nature et c'est plutôt 18e et donc c'est postérieur. Puis ces mêmes jardins sont arrivés en France à la même époque aussi, mais ont été interrompus par la Révolution française. Donc on a très peu d'exemples de jardins informels. C'est la formalité contre le formalisme. Or, le jardin anglais, pour moi aujourd'hui, est un mélange de jardin formel avec du désordre. Et le jardin français, aujourd'hui, il n'a pas de sens. Donc voilà.
Quels sont les jardins typiquement français en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qui font tendance? Vous en avez fait 300 à travers le monde, il faut dire, en France.
Justement, j'espère faire les choses avec goût, avec style et avec amour et avec affection. Mais je me sens plutôt caméléon, c'est-à-dire que j'essaie de faire des jardins qui sont adaptés aux endroits. Donc j'ai des choses qui sont de tendance anglaise et puis de tendance méditerranéenne quand je suis en Méditerranée et puis de tendance construite quand je suis dans un site historique et que le site historique mérite de la construction. Et puis, ça m'arrive aussi de travailler sur des jardins 19e. Là, je suis en train de restaurer le parc de Chaumont-sur-Loire, qui est un jardin d'Henri Duchesne, un des pères de notre paysage au tournant du siècle, avec son fils plus tard. Et ce que j'essaye, c'est de m'exprimer avec... Quand on travaille dans un jardin qui existe déjà, ce qui arrive souvent, j'essaie d'être un passeur qui fait que l'histoire qu'on a aimée ou que le contemporain aime puisse durer pour nos petits-enfants. Je ne cherche pas à m'exprimer d'une façon très marquée de mon époque, puisque je ne suis pas provocateur, et je ne cherche pas à m'exprimer avec un style, mais du style, je dirais.
Alors, justement, nous allons parler, bien sûr, avec la réouverture du bosquet du Théâtre d'Eau dans la partie nord des jardins de Versailles. Et, nous en avons déjà parlé avec Jean-Michel Ottoniel il y a quelques semaines. Mais pour commencer, bien sûr, je ne sais pas si je suis très rassuré qu'un paysagiste pilote l'avion. Vous sentez vraiment l'âme d'un pilote d'avion? Ça vous viendrait naturellement?
Je suis catastrophé pour le pauvre passager.
Écoutez.
Bah, mieux non, je vais aller droit dans les turbulences. On va avoir un atterrissage un peu hors piste dans l'herbe, parce que j'aime brouter.
Bon, autant nous amuser avec la musique avant le crash. Alors, pour parler de l'île de Ré, qui est votre première escale, puisque nous avons décollé de Paris, il y a deux musiques. Soit c'est Gloria Gaynor, I Will Survive, soit c'est Gabriel Fauré. Comme nous sommes sur France Musique, je vous propose de commencer avec Fauré. Voilà, du Requiem de Gabriel Fauré, c'est l'introït et Kyrie, là c'était avec Kathleen Battle, Andrea Schmidt par le Philharmonia Chorus, Philharmonia Orchestra, sous la direction de Carlo Maria Giulini, que vous avez choisi pour parler de l'île de Ré, pourquoi?
Non, parce qu'on est un peu Dr. Hyde et Jekyll à la fois, et j'adore les gens, et j'adore m'amuser, et j'adore être seul aussi. Et quand on aime être seul, sans aucune gravité et avec un peu d'humour, c'est des moments de sérénité, c'est de la musique qu'on écoute, c'est pas de la musique qu'on vit. Et il y a des moments où j'ai besoin de musique qu'on écoute. On me charrie toujours, parce que quand je dis quel est le plus beau paysage, pour moi je dis que c'est l'horizon maritime. D'abord parce que j'ai été élevé sur une île, et qu'un des moments de sérénité, c'est pas des mers agitées, c'est pas des tempêtes, mais j'aime l'horizon et j'aime le vide. Donc ça, c'est un peu le vide. Un vide très plein, puisqu'il est, il est très poétique. Et c'est de la musique que j'écoute. Et puis, il y a aussi, évidemment, des musiques que je n'écoute pas, mais que je vis.
Vous avez appris le jardinage, enfin, vous avez pris goût du jardinage. J'ai lu dans les potagers de vos grands-parents. C'est vrai, ça ?
C'est pas totalement vrai, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de potagers. Il y avait un micro-bout de potager chez ma grand-mère paternelle. Et ma grand-mère maternelle ne faisait pas pousser de légumes, mais plutôt des fleurs. Et la seule chose vivrière, c'était des arbres fruitiers. Mais c'est vrai que mes grands-mères ont eu une importance, et bien que j'adorais jardiner avec elles, et qu'elles jardinaient, qu'elles semaient, qu'elles taillaient.
L'une était conventionnelle. Parlez-nous des choses qu'elles semaient.
Justement, ma grand-mère paternelle taillait ses rosiers, et elle le faisait d'ailleurs comme une Anglaise, plus que comme une Française, qu'elle le faisait à peu près à n'importe quelle saison, quand elle trouvait que la forme était mauvaise, indépendamment de faire du deadheading et d'enlever les fleurs fanées. Mais elle adorait son jardin, qui était conventionnel et pas très joli, alors que ma grand-mère maternelle était beaucoup plus fantaisiste. Elle semait des graines et je me souviens de ces reines marguerites qui m'enchantaient parce que ce sont des plantes chinoises et que je partais pour la Chine à travers ces marguerites. Elle était du genre à mettre une tomate entre deux hémérocales, un peu comme ça lui venait, et c'était fantaisiste et très poétique. Et puis, parce qu'on m'a fait semer des graines, justement, dans un coin de capucine, puisqu'on est sûr que ça marche et que ça enchante les enfants. On enfonce sa graine à Pâques et on la voit en fleurs quand on revient l'été. C'est merveilleux.
Je ne comprends toujours pas l'attirance. Parce que moi, je me meurs. Je vous disais, on a fait des trajectoires très opposées. Parce que moi, j'en viens maintenant à planter mes premières jonquilles. La première fois de ma vie, j'ai planté des choses il y a deux mois, des bulbes.
Oui.
Et j'étais tout excité quand
c'est magique.
Alors, c'est magique, oui, mais je viens de découvrir ça. Donc vous êtes à l'autre.
J'ai un peu d'avance là, parce que j'ai eu un badge de jardinier pour avoir fait pousser des jonquilles en étant louveteau, où j'allais acheter mes bulbes à prise unique avec je ne sais pas quel argent, où je passais à la balayette le trottoir pour récupérer des graviers. Ça, c'était dans un milieu urbain, mais donc pas de terre. Et un bulbe pousse simplement avec de l'eau, en fait. Et donc, je mettais dans un petit pot, genre yaourt, un bulbe de narcisse que j'arrosais soigneusement et que j'apportais triomphant le jour où il se mettait à fleurir. Mais ça m'a toujours fasciné, cette espèce d'énergie que la nature a. La germination d'une graine, c'est fascinant, que ce soit une graine de lentille. Ou justement, la sortie d'un bulbe aussi bête qu'un narcisse, c'est quand même une joie.
Mais aussi bête, mais aussi formidable. Vous avez le plus beau vers de Shakespeare. Vous connaissez ce qu'il dit sur les jonquilles?
Je crains que non.
Ah oui, c'est très beau. Daffodils that come before the swallow dares and take the winds of March with beauty. Les jonquilles qui viennent avant que l'hirondelle n'ose et qui prennent les vents de mars avec beauté. Je trouve que ça en dit beaucoup. Mais alors, justement, sur l'île de Ré, votre autre choix, c'était I Will Survive de Gloria Gaynor. On l'écoute un peu, vous allez nous dire pourquoi après.
At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad on your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble?
C'est terrible, je connais toutes les paroles par cœur, mais qui ne connaît pas ça, qui a fait son adolescence dans les années 70. Alors pourquoi de l'île de Ré? Pourquoi est-ce que ça vous évoque l'île de Ré?
Non, c'est parce que exactement comme je vous dis qu'il y a des choses qu'on écoute, il y a des choses qu'on vit. Et ça, c'était vivre, et c'était un mélange étonnamment gay de ce qui est tragique aussi dans l'existence. C'est-à-dire que I Will Survive, c'est quand même un cri de survie.
Et ça va bien avec les plantes aussi, finalement.
Je ne sais pas. Mais en tout
cas, les plantes survivent beaucoup, non?
Ah, les plantes, c'est assez... Enfin, quand on voit le Ginkgo qui a subi des attaques atomiques et qui est encore là, c'est formidable, oui. Et c'est vrai que la nature étant très, très généreuse, on a beau faire toutes les bêtises et toutes les erreurs de jardinier, très étrangement, on s'aperçoit que ça marche. Et c'est incroyablement généreux, un jardin. Enfin, et la vie végétale est généreuse.
Qu'est-ce que vous ressentez vous-même quand vous voyez un jardin pour la première fois? Vous ressentez quoi en général? Il y a toujours un esprit de création derrière, quelqu'un qui a conçu un jardin. Vous êtes sensible à ça ou est-ce que parfois c'est le désordre?
Je ne sais pas comment répondre parce que ce que j'aime, c'est la promenade, la motion. C'est un endroit où on est entouré, c'est-à-dire qu'on sent ce qu'il y en a dans le dos. Je ne pense pas toujours à ce que je vais y projeter. Je suis un jouisseur de ce que je vois quand c'est beau. J'ai eu énormément de plaisir à traverser des jardins assez tôt, ce qui est un cadeau. J'ai été pensionnaire très peu de temps, mais un petit bout de temps en Angleterre, où j'échappais aux cours et aux après-midi de cricket en partant jardinier avec le jardinier.
Vous étiez à Hillier, c'est ça?
Oui, non, mais ça, c'était avant. Je devais avoir une dizaine d'années et j'ai été toujours dans le Hampshire, dans un collège qui s'appelait New Play School, qui était une ravissante maison Tudor, où on était peu nombreux. Des enfants archi privilégiés, j'imagine, m'ont expliqué que c'était pas chic, mais c'était quand même divin. Et il y avait un potager, et on s'occupait du potager. Et puis, surtout, j'avais donné un coup de main l'après-midi au jardinier, parce que j'aimais bien mieux éplucher des rhododendrons fanés que d'aller jouer au cricket, où j'étais nul. Dès qu'il s'agit d'une balle, quelque part, moi, je suis...
Vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'Anglais, moi-même, qui ne comprennent pas les règles de ce jeu. Et puis après, Hillier, c'était quoi?
Hillier, c'est bien plus tard, puisque... Oui, ça, j'ai commencé à faire des études de droit parce que mon rêve était de devenir ingénieur des eaux et forêts, élevé dans cette île sans arbres. J'ai développé une passion forte pour l'arbre et le tronc et le chêne. Et puis, ça, c'était tout à fait impossible parce que incapable scolairement parlant. Donc, j'ai fait du droit. Et il y est arrivé... À un moment où je me disais, il vaut mieux faire quelque chose qui vous plaît, j'avais eu la chance, par un très très gentil ami d'amis, d'avoir été pris dans un très bon cabinet d'avocat à Paris chez Gide pour un stage. Et je me suis dit, mais je ne vais jamais pouvoir travailler dans cet endroit alors que je suis si nul et si incapable. Et je crois que de peur, je me suis enfui et j'ai pris à ce moment-là des décisions, grâce à une vieille amie anglaise, d'ailleurs, chez qui j'habitais, que j'ai eu au téléphone hier soir, qui est une très vieille dame absolument exquise, et qui m'a dit, mais non, il faut faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, et du coup, c'est beaucoup plus facile.
Alors, à Hillier, vous êtes tombé sur quelqu'un qui était un tout petit peu timbré, vous m'avez dit. Non, porté.
Porté, oui. Je disais porté, je disais que pendant ma période chez Hillier, j'allais tous les soirs, après avoir travaillé dans la pépinière, tous les soirs, que ce soit été comme hiver, parce qu'on sortait suffisamment tôt pour avoir encore quelques gouttes de jour, même en hiver, j'allais prendre des notes dans l'arboretum. Et c'était une époque où l'arboretum était fermé, c'était ouvert au public, mais c'était une heure où c'était fermé. Et donc, dès que je voyais un arbuste commencer à s'agiter frénétiquement, je me disais, Harold Hillier est derrière, en train de surveiller. Il était paniqué par l'idée que des gens étaient en train de lui voler ses trésors.
Est-ce qu'il avait raison?
Je ne sais pas. Si, il devait avoir une forme de raison, parce qu'il m'a raconté plein d'histoires de vol entre copains. Au moment de certaines premières introductions, certains de ses amis venaient lui piquer, et lui-même avait dû beaucoup piquer chez d'autres de ses amis pour pouvoir posséder ses trésors qu'on venait juste de rapporter de Birmanie ou du fin fond de l'Amérique du Sud.
Quoi faire un film? Les gens ignorent tout ça. C'est tout un monde.
Oui, on imagine que les jardiniers sont des gens d'une honnêteté totale, mais ils vous prennent toujours un bout de bouture et vous... c'est des coquins, les jardiniers. Quand la fièvre du goût de la plante vous a gagné, les gens sont prêts à n'importe quelle turpitude. Et donc, il y avait des moments où je me faisais vraiment engueuler comme un âne batté. Et puis... Il a fini par s'habituer à ma présence, donc ce très vieux monsieur, et puis à me raconter justement des histoires de vol, à m'emmener dans un roncier au fin fond de l'arboretum pour aller voir un Carriera calycina, qui est une plante qui a d'ailleurs été, qui porte le nom d'un botaniste français, mais qui est une flacourtiacée, c'est-à-dire une famille assez peu répandue, même pas présente, je crois, dans l'hémisphère nord. Je dois dire des bêtises. Mais enfin, on en a introduit, mais c'est une famille peu nombreuse. Il y a les frémentodendrons que certains gens connaissent, parce que c'est une espèce de d'hibiscus qui n'en est pas un, californien jaune pétant. Très jolie plante. Et puis, alors tout ça, ça me faisait voyager. J'étais heureux comme un roi.
Alors, faites-nous voyager, parce que vous pilotez notre avion. Nous allons quitter l'Europe. Destination, le Pakistan. Voilà, Louis Benesh, je vous ai demandé de la musique de Bollywood. Vous êtes servi. Là, c'est le Punjabi Wedding Song, la chanson de la fête du mariage au Punjab. Alors, pour parler du Pakistan, c'était votre premier voyage loin de l'Europe pour votre service militaire.
Oui, j'ai été marin.
Au début des années 80.
Exactement. Je suis parti en 80 et le peut-être qu'effectivement le Pakistan... Non, c'était encore en 80. C'était avant Noël et avant qu'on ne franchisse ce qu'on appelle la ligne, c'est-à-dire l'équateur. Et j'étais sur un aviso-escorteur basé à Djibouti et on venait de passer un mois sans escale en mer à faire de la patrouille dans le détroit d'Ormuz. Et on est arrivé au Pakistan pour faire un carénage.
Un carénage ?
Un carénage du bateau à Karachi. Et ce temps de carénage...
C'est quoi exactement un carénage ?
C'est le nettoyage de la coque. Donc on met le bateau sur une cale sèche, une cale qui s'assèche, et puis on envoie des gentils pakistanais nettoyer la coque. Parce que ça se nettoie, il y a des coquillages, il y a des choses qui s'incrustent, et puis on nettoie, et puis on repasse de l'anti-rouille, et on repasse de la peinture.
Et qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là ?
Et pendant ce temps-là, justement, ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est que ça a été ma première trêve. Et du coup, j'ai compris que je n'aurais pas les moyens de m'offrir des taxis entre le port et la ville souvent. Donc, à mon deuxième voyage en ville, j'ai acheté un vélo. Et on a proposé, certains qui avaient les moyens sont partis à Lahore et dans le nord du pays. Et moi, par contre, je suis parti avec mon vélo, simplement dans le delta de l'Indus, dans ce qu'on appelle le Sindh. Et je suis parti vers la frontière afghane. Dans cette région qui s'appelle le Belouch, qui sont les premiers plateaux.
Et tout ça tout seul,
tout ça seul.
D'à vélo.
À vélo, mais c'est pas des distances infernales. j'avais une peur panique, parce que j'ai peur de tout d'ailleurs dans l'existence, mais j'avais tellement peur de ce pays et des gens que je m'accrochais mon vélo le soir pour dormir dans les fossés et enroulé dans une couverture.
Mais attendez, parce qu'il y a quand même une contradiction. Vous avez peur de tout, mais en même temps, vous vous lancez dans une aventure pareille. C'était pas
oui, mais j'avais envie de voir.
Une région un peu dangereuse aussi à l'époque.
J'avais envie de rencontrer des gens. J'ai vu très, 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 très beaux endroits, je dois dire.
Lesquels?
Une sublime mosquée qui a été faite par le Shah Jahan, qui est pas loin de Tata, et dont j'oublie le nom, qui est une mosquée qui est un corps de bâtiment simplement à un étage et qui est entièrement en briques de terre crue et de briques vernissées bleues en rayures. C'est d'une modernité insensée. Et tout ça dans un paysage dunaire, donc l'île de Ré, de sable, de delta, enfin d'eau, un peu comme des marais, avec des zones de tombe et puis des plantes sur le bord des routes.
Quel genre de plantes?
Des malvacées, enfin je veux dire des plantes qui poussent dans ces terrains pauvres, qui vont en s'appauvrissant plus on se rapproche du Bélouch. Mais j'ai toujours fait, enfin j'ai fait des herbiers qui étaient absolument incohérents puisque inculte. Donc je nommais mes plantes d'une façon intuitive, mais qui s'est avéré après ça en ayant acheté des fleurs totalement fausses. Mais j'ai commencé à bâtir mon éducation de jardinier avec ce que je trouvais. Et puis tout m'intéresse dans le règne végétal.
Mais est-ce que ce n'est pas frustrant? Parce que vous pouvez prendre des souvenirs, vous pouvez apprendre la végétation sur place, mais vous ne pouvez pas emporter grand-chose avec vous, surtout à vélo.
Non, à vélo, j'emportais. J'avais sur un porte-bagages, j'avais un livre, du journal et je pressais. Et après ça, je suis rentré au bateau. On m'a jamais mis en boîte. On a été extrêmement gentils. Mais j'ai occupé la table à cartes dès qu'on était dans un endroit où il n'y avait pas de nécessité de manœuvre et où on n'était pas en mer pour pouvoir étiqueter, coller tout ça dans des livres.
Vous écoutez Voyage en moi majeur avec Louis Benesch, notre commandant de bord ce soir sur France Musique. C'est Sat Bayan Ki Ek Banaldi du Rajasthan. Ça sort de la bande originale du film Lacho Drum, un film de Tony Gatliff. Pourquoi vous avez choisi cette musique?
Non, c'est toujours mon histoire pakistanaise. Quand je dis Bollywood, c'est Bombay qui est à côté. Mais Bombay est aussi gay que le Pakistan m'avait fait peur. Dans ce voyage à vélo, on se prend pour un Rome, et la culture Rome m'a toujours fasciné, et la musique m'a toujours intéressé, puisque comme c'est de la musique écrite par des gens qui ont voyagé de l'Inde à ici, on a des musiques d'Europe centrale et des violons tziganes, on a des musiques qui sont extrêmement proches des flamencos. C'est une musique qui me fait voyager. Et puis, c'est un film merveilleux. Et que j'ai pensé à l'illustration de ça pour un voyage que j'ai fait beaucoup plus tard et un pays que j'ai adoré, qui est mon passage en Iran. Mais je n'ai pas retenu de ce voyage en Iran des musiques marquantes, parce que l'époque où j'y étais était une musique où la musique, la variété iranienne sur place, c'était pas vraiment ce qui me séduisait le plus.
C'est une question bateau qu'on pose souvent, mais sur France Musique, j'ai envie tout de même vous la poser parce que vous évoquez les plantes, la musique. Est-ce que les plantes sont sensibles à la musique ?
J'ai aucune idée, mais ce que je sais, c'est que les plantes ont une mémoire, en tout cas. Quand on scie un arbre, on sait très bien quelles sont les années de sécheresse ou les années d'excès d'eau, parce que les cernes sont placées différemment. Et j'ai pas de sensiblerie, j'ai pas de sens métapsychotique de la vie. Je ne sais pas si elles sont sensibles à la musique ou pas. Ce que je sais, c'est que ça vit. Et que ce que j'aime aussi dans les jardins et à travers les plantes, c'est que ça vit, c'est que ça pousse, c'est que ça se change, ça se modifie.
Il y a une personnalité dans les plantes,
oui.
Personnalités différentes.
La même plante vous dit zut si elle n'est pas sur un terrain qui lui plaît. Enfin, je veux dire, il y a des réactions qui sont voisines, cousines de nos réactions. De là à avoir un rapport, j'ai pas de conversation avec les plantes, j'ai des conversations avec un jardin, parce que ça me fait rêver, et donc quand on rêve, ben on rêve. C'est pas du domaine du cauchemar, mais... Donc on peut avoir des conversations dans un jardin, je n'attends pas de réponse d'une plante. Une des choses pour lesquelles je choisissais aussi les jardins, et que j'aimais dans les plantes, c'est qu'au moins je me disais que ça ne vous dit pas zut, et que ça ne vous insulte pas, et que ça n'a pas la parole que je trouvais parfois un peu lourde de mes congénères.
Alors Louis Benesch, vous avez quand même une conversation avec vos clients, vous avez fait quoi, plus de 300 jardins à travers le monde, y compris les plus cotés, comme les Tuileries par exemple.
Oui, les Tuileries, c'est une aventure où j'ai été entraîné par Pascal Cribier, et je lui dois énormément dans cette aventure. Parce
c'était
que
au début des années 90.
On a gagné, on a été nommé le 1er novembre ou début novembre 90, après avoir concouru et planché pendant le printemps 90, en rendant notre première copie en juillet. Et ça, c'était grâce à lui que ça m'est arrivé. Je trouvais tout très normal alors que j'avais une vie de jardinier. J'étais jardinier à l'époque, jardinier. C'est pas un euphémisme, c'était une réalité. Je bêchais, je désherbais et je taillais mes rosiers là aussi pour un merveilleux vieux monsieur apatride, mais irlandais d'origine en Normandie. Et j'étais extrêmement heureux dans cet endroit où j'avais eu un peu de mal à me faire accepter au début, mais heureux parce que j'étais dans un jardin, parce que j'en profitais le soir en fin de journée. À l'heure où l'humidité arrive et où les parfums s'exhalent, où les ombres s'étirent. Après une journée de labeur, ce qui est merveilleux, c'est de profiter de l'endroit dans lequel on a travaillé avec joie.
Mais vous ne profitez pas de votre œuvre, parce que parfois, c'est même pas 10 ans, c'est 30 ans après qu'on voit le résultat de ce que vous plantez aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas difficile, quand on travaille avec cette échéance-là, de créer quelque chose ? Parce qu'en fait, vous avez...
Non, c'est pas difficile. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je suis un père infidèle, si on se sent père dans ces opérations-là, parce que j'ai trop d'enfants pour aller leur dire coucou à tous. Mais j'en ai, avec qui j'ai une régularité de 30 ans. Je foule encore mes jardins à la fois par autosatisfaction, peut-être.
Non. Mais vous avez parfois des surprises, parce que les enfants sont parfois imprévisibles. Vos plantes, vous
mais justement,
pas
parce qu'ils
savoir.
Sont une source d'enseignement. C'est-à-dire que l'expérience, on l'a bâtie, et on l'a bâtie en allant voir comment ce qu'on a élevé ou ce qu'on a mis sur rail évolue. Et qu'il y a toujours des choses à redresser, et que si on a envie d'une symétrie, qu'on plante deux arbres identiques à 5 mètres de différence pour marquer un départ d'allée, ben on s'aperçoit qu'il y en a un qui a très très bien poussé et l'autre beaucoup moins bien. C'est-à-dire qu'en permanence, c'est une gentille leçon, mais le résultat est beau. Et c'est-à-dire que c'est... Ce qu'on a projeté comme image est toujours un peu déformé.
Donc c'est un art, quoi, à 70% de...
Non, c'est très marrant, mais je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. C'est pas de la prétention, mais c'est du sentiment. C'est que d'abord, je suis un inquiet, donc je pense que ça va jamais aller. Mais je suis toujours surpris par le résultat qui est largement supérieur, à mon sens, à celui que j'ai projeté. Enfin, je dis supérieur, j'exagère, mais différent, avec une nuance qui est enchanteresse. Et là aussi, il y a des propriétaires, et Dieu merci, il y a des propriétaires qui font des choses qui pourraient me choquer, mais je suis tellement content quand ils prennent possession eux-mêmes de cet enfant que je vais abandonner parce que je suis un créateur d'orphelin. Je suis très très heureux quand leur lait est pris par quelqu'un qui va avoir de l'attention, de l'affection pour cette chose qui vit et que ça va lui porter du plaisir.
Là, nous allons diriger notre avion vers l'Amérique du Sud et vous voulez une musique. D'ailleurs, c'est assez intéressant cette expérience qu'on peut voir sur un site de vidéopartage bien connu dont on ne citera évidemment pas le nom. Mais qu'est-ce qu'on peut voir sur cette vidéo ?
Cette vidéo, c'est un orchestre philharmonique dirigé par
Dudamel,
un chef remarquable qui est, je crois, aujourd'hui le patron du Los Angeles Philharmonic Orchestra. Et où son orchestre, où ses altistes, ses violoncellistes, ses violonistes, tous les instruments avant, ouais. Sur un coup de tonnerre, décident de partir dans leur musique, et de leur musique populaire et des mambos. Et alors là, c'est la fusion, la communion entre la scène, la salle, et on est en plein délire. Vivant, populaire, dans le meilleur sens du terme, et c'est l'explosion de joie. Et ça me fait un plaisir immense.
Quelle allégresse, effectivement, si vous tapez Mambos de Pérez Prado sous la direction de Gustavo Dudamel, l'orchestre de jeune Simón Bolívar, sur ce site de vidéopartage, vous allez pouvoir regarder quelques extraits de ces vidéos. Alors vous, avec l'Amérique du Sud, vous avez surtout travaillé au Brésil, qui est un pays qui, apparemment qui vous enchante. Pourquoi ?
Oui, ça m'enchante un peu. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'enthousiasme. Et que comme on l'entend ou comme on le voit, c'est de voir, ce sont des terres de contraste, ce sont des terres où, la première fois où j'ai été au Brésil, on m'avait raconté de faire très très attention, la première fois c'était à Rio, faire très attention parce que c'était des villes dangereuses, et je me suis dit, je sortais d'un voyage aux États-Unis où dans un train à Boston, j'avais une très mauvaise expérience pour m'être fait jeter d'un compartiment où des Noirs trouvaient que j'étais beaucoup trop blanc pour eux, et qu'au Brésil, eh ben, je voyais la très jolie blonde avec un très beau monsieur noir et la très belle fille avec... Enfin, je veux dire, je trouvais qu'il y avait un vrai mélange aussi, et qu'on me racontait des choses négatives sur un endroit qui est plein de choses positives. Et puis parce que c'est... je rêve d'aller au carnaval de Rio où j'ai jamais été, mais la samba m'enchante. Ces espèces d'explosions de joie. Il y a aussi une immense pauvreté, mais je suis toujours ému par les endroits qui savent surmonter des difficultés avec à la fois pas grand-chose, beaucoup, beaucoup quand c'est le carnaval de Rio, puisque les gens dépensent des fortunes pour leur costume, probablement.
Vous devez aussi découvrir pas mal de végétation inconnue et insoupçonnée.
Oui, alors la végétation, je suis un peu perdu.
Il y a toujours cette excitation.
Oui, il y a toujours cette excitation. Nouveau. C'est très amusant, mais la fleur brésilienne est une des fleurs les plus répandues dans le monde. Le premier exemple, c'est le bougainvillée, que vous connaissez, parce qu'il y en a absolument dans tous les pays tropicaux, ou chauds, ou méridionaux, mais je veux dire, il y en a dans toute la Méditerranée, il y en a dans toutes les Antilles, il y en a dans toutes les... Il n'y a pas d'endroit au monde où il n'y ait pas de bougainvillée, c'est brésilien. Il n'y a pas d'endroit au monde où il fasse un peu chaud, où un des arbres mythiques, c'est le jacaranda. Jacaranda, c'est brésilien aussi.
Ah, j'en ai vu en Afrique du Sud, par exemple. C'est arbres mauvâtres.
Enfin, exactement. C'est, voilà. Avec une feuille d'une extrême légèreté et avec une floraison enchanteresse. Et puis, y a beaucoup de choses brésiliennes qui sont beaucoup plus rustiques que ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'on peut planter dans un jardin à Paris ce qui s'appelait autrefois des feijoas, qui maintenant s'appelle Acacia sylvaviana, qui est une espèce de goyave avec une fleur ravissante, une feuille persistante ravissante. Enfin, voilà. Donc... Il y a des points de repère dans une flore, et puis il y a toutes les inconnues. Dans les plantes, comme je pratique aussi un peu le Portugal, et au Portugal, il y a beaucoup de plantes brésiliennes, de même qu'à Lisbonne, il y a plein de perroquets brésiliens qui volent d'arbre en arbre dans la ville. J'irai acclimater pas mal de choses en Europe, mais quand je vais au Brésil, effectivement, je suis terriblement perdu, puisque 99% de la flore m'est inconnue. Mais là aussi, c'est une joie. Ça a été la terre d'un très, très, très grand paysagiste, le plus grand paysagiste du XXe siècle, qui était Roberto Burle Marx, qui a excellé dans un domaine où moi, je serais incapable de travailler comme lui. Mais je suis extrêmement admiratif vers quelqu'un qui a fait progresser le schmilblick des jardiniers.
Est-ce que, Louis Benesch, il y a des plantes qui vous laissent bouche bée aujourd'hui, vous qui en avez vu tant? Des choses qui vous étonnent complètement.
Oui, oui, oui. Mais y compris,
par exemple.
Non, mais un bouton d'or encore aujourd'hui me fascine. Le côté nacré de l'intérieur du pétale, je veux dire, je suis capable de le regarder pendant 2 heures. Peut-être pas 2 heures. Mais non, et j'adore les talus au bord de route. Une fois de plus, j'ai aucun sentiment de propriété, j'ai pas besoin de m'approprier quoi que ce soit, mais j'ai plus de goût vers les plantes des pays tempérés que des pays tropicaux, je dirais. Mais là aussi, ça fait partie des voyages où je me disais que ça m'avait fasciné. Mon dernier voyage était à Madagascar. Quand on voit un baobab, on est absolument fasciné. C'est un arbre de bande dessinée. C'est une faune et une fleur de bande dessinée. C'est un pays qui était extrêmement éprouvant, justement, à cause de la pauvreté locale, humaine. Mais c'est un pays qui est fascinant parce que toute la nature est bienveillante. Il n'y a rien d'agressif, il n'y a rien de...
Ça veut dire quoi exactement, agressif? Comment est-ce que la nature peut vraiment être agressive vis-à-vis d'un homme?
Parce que si vous êtes au Zimbabwe ou au Botswana, on risque de se faire charger par un éléphant et on risque de se faire manger par un chien, et que les fauves sont les fauves.
Oui, mais ça c'est les animaux. Mais
c'est le côté faune. Mais même dans la flore, il y a des choses qui sont extrêmement urticantes ou empoisonnantes ou dangereuses. À Madagascar, tout est doux. C'est incroyable, tout est doux, y compris ces écorces de baobab. C'est des géants, mais qui sont faits pour un dessin d'enfant. Enfin, je veux dire, qui sont très rassurants. C'est très rassurant. C'est des formes qui sont bonhommes. Les lumériens sont des animaux, mais absolument extraordinaires. Il n'y en a pas. Les serpents sont gentils. Les araignées, il y a des araignées absolument partout. Avec une toile extraordinaire, qui est une des choses les plus résistantes. Mais les araignées vous courent dessus, elles sont énormes. Mais on ne va pas se faire piquer.
Vous êtes sûr que vous n'avez pas pris quelque chose au moment où vous êtes arrivé à Madagascar ?
Rien du tout. J'étais plus inquiet par mes congénères, une fois de plus, qui vivent dans un état de pauvreté qui, quand on est en milieu urbain, est lourde à supporter, alors que quand on se balade dans des villages de pêcheurs ou dans un milieu rural, on est beaucoup, une fois de plus, la vie rurale est quand même beaucoup plus douce dans le monde dans lequel on vit que la vie des villes.
Est-ce qu'il y a des fleurs, des plantes laides ?
J'aime tout. Il y a plein de gens qui vous disent « Ah, je déteste ceci ou je déteste cela », et je dis toujours « ça dépend avec qui, et ça dépend avec quoi, et ça dépend quand et pourquoi ». Les occubas, qui sont un chef-d'œuvre de jardin public Napoléon III parisien, ça a plein de qualités, ça pousse dans les pieds d'un marronnier, à l'ombre noire d'une cave. Je suis trop content de trouver des occubas sur terre. Donc non, il n'y a pas de plantes que j'aime pas. Je trouve qu'il y a des esthétiques qui sont moins les miennes. S'il y a un érable introduit en France, américain, qui a été surplanté, qui est l'Acer saccharinum, parce qu'il pousse très très vite, et je trouve que son port n'est pas le même qu'aux États-Unis. C'est très marrant parce que des plantes exportées ne se comportent pas de la même façon sur des sols et dans des climatologies un peu nuancées. Et donc, il y a des ports que je n'aime pas tellement. Et la façon dont, en règle générale, je travaille, c'est qu'il n'y ait pas d'apparence d'exotisme, bien que j'adore employer des plantes qui viennent de droite et de gauche.
Nous partons vers le Nouveau Monde et New Orleans. Et vous avez choisi, bien sûr, Dvorak. Voilà, c'est un extrait du troisième mouvement de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Là, on a entendu par le Czech Philharmonic Orchestra sous la direction de Karel Ansel. Pour parler évidemment du Nouveau Monde et New Orleans, une autre étape, pourquoi ?
Une étape là encore très métissée et que j'aime énormément. J'ai eu la chance là aussi d'y faire un jardin. Nouveau Monde, c'est parce qu'effectivement c'est l'autre côté de l'autre et c'est plutôt les Rocheuses. Là encore, le delta du Mississippi, c'est un pays plat. C'est un pays où j'ai été après cette horrible Katharina, où là aussi, on nous aperçoit des défaillances. Et j'ai été invité à refaire un jardin derrière la cathédrale de la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Saint-Louis. et où là, je me suis servi uniquement de plantes natives sur la périphérie et uniquement des arbres fruitiers introduits par les Européens. Là encore, les voyages des plantes. Derrière cette cathédrale qui a été bâtie d'abord par des Français et puis reprise par des Espagnols.
La nature reprend vite le dessus après une catastrophe comme ça ?
Oui, et puis c'est une façon d'oublier un très mauvais moment, parce que c'est le moment d'angoisse terrible, c'est de voir effectivement c'est les maisons détruites, les marques de l'inondation et puis des rues éventrées par les systèmes racinaires de ces chênes persistants de la Louisiane. C'est assez apocalyptique comme vision. Et très vite, on s'aperçoit que notre mémoire, grâce à une feuille qui repart, eh ben, gomme ce très mauvais moment. Une fois que l'arbre est tronçonné, c'est fou ce qu'on oublie vite. Et c'est fou ce que, effectivement, l'acte de replanter un arbre, de le replanter peut-être un peu moins grand dans l'endroit où un trop grand arbre détruit trois maisons quand il tombe. Faire quelque chose qui est un peu plus de se dire qu'on subit des choses dont on n'est pas maître. Et là aussi, c'est un message d'espoir, de futur. C'est-à-dire, vous... c'est pas nostalgique.
Vous vivez où, Louis Benesch, en temps normal? Où est-ce que vous êtes chez vous? Est-ce que vous avez un jardin chez vous?
J'ai un micro-jardin. J'ai un confetti de jardin. J'habite dans le 19e arrondissement. Un petit bout de maison, ce qui est donc un luxe effarant, coincé entre des HLM. Mais où j'ai la chance de pouvoir donner un coup de sécateur, de semer une graine et arracher une mauvaise herbe de temps en temps.
Alors, votre dernière destination, c'est le voyage professionnel que vous avez préféré, c'est la Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Qu'est-ce que ce pays vous a fait?
C'était un pays où, là aussi, je me suis dit que je planterais très, très facilement ma tente. D'abord, je vous ai dit que j'adorais mes congénères, mais que je suis très content quand il y a peu de gens. Et que c'est un pays où il y a 4 millions de gens sur une surface qui est à peu près, les deux îles, ça représente à peu près la surface de l'Angleterre. De très 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 beaux paysages, mais d'une échelle 13 qui est familière.
Vous qui avez été dans le Perth, en Écosse, oui. ça ressemble beaucoup à... Moi j'imagine toujours, j'ai jamais été, la Nouvelle-Écosse, c'est un peu comme l'Écosse, mais à l'envers.
Un peu.
Mais pas trop.
Non, parce qu'il y a un côté plus volcanique dans l'île du Nord, qui ressemble un peu à un massif central dans la mer. Comme géographie, c'est une géographie qui est douce. Elle est plus mouvementée dans l'île du Sud avec ce qu'ils appellent les Alpes. Mais c'est aussi déchiqueté que les Alpes avec un tableau de Gaspard Friedrich. Il y a des fjords à la norvégienne. Enfin, il y a des images qui sont parfaitement en adéquation avec ce qu'on a eu la chance de traverser sur cette terre, sur sa vieille terre. Et ce qui est très amusant, c'est que donc de loin, c'est un paysage familier. Et puis dès qu'on pointe l'observation, le kiwi, ça n'existe pas vraiment chez nous. La bruyère devient un leptospermum. Le sapin est un agathis australis extraordinaire. La végétation est absolument faramineuse. Extrêmement enthousiasmante parce qu'il y a un mélange dans un climat tempéré de fougères arborescentes, de cordylines qui sont d'un exotisme échevelé, mais ça ne se voit pas de loin. Et que ça ne se voit pas de loin dans le paysage. C'est-à-dire qu'il y a une douceur qui vous est familière et qui est rendue encore plus familière parce que les moutons introduits ont apporté dans leur laine des graines d'ajonc. Alors ça ressemble terriblement à votre Cornouailles parce que les côtes en hiver, c'est-à-dire dans notre été, sont jaunies d'ajonc. Et donc il y a quelque chose de familier. D'éminemment sympathique, les gens y sont exquis, que ce soit les gens qui ont envahi cet endroit, comme les Maoris, qui sont tout de même très présents, qui sont des gens merveilleux. J'ai travaillé avec des équipes d'ouvriers pour faire un jardin, ils étaient tous Maoris, et j'étais éperdu d'amour pour eux tous.
Voilà un petit extrait de Berlioz, Harold en Italie. Là, c'était par le London Symphony Orchestra. Ce Colin Davis, c'est vrai que ça illustre ces paysages vallonnés, les fjords de Nouvelle-Zélande.
Berlioz peut être parfois violent. Là, c'est un Berlioz qui est doux, qui est serein, qui est aussi de la musique qu'on écoute. Et c'est une musique qui me fait penser à ces paysages. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais qui... Il y a quelque chose de romantique, il y a à la fois du vent, il y a ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans Harold en Italie, c'est la marche des pèlerins, où il y a quelque chose où on sent qu'on marche à travers quelque chose qui est très une lande, il y a des zones de paysage de lande, donc des collines douces, de la broussaille, des moutons, de très beaux horizons, des cieux magnifiques, et puis la mer au bout. Une fois de plus, j'adore la mer. Et la mer est très présente en Nouvelle-Zélande, parce que, sauf quand on est dans cette partie Alpes, je dirais, mais même quand on est dans la centralité de l'île, on peut monter sur une colline et l'apercevoir. Et puis, mais c'est une géographie qui est douce et qui est très bienveillante. Et très,
Alors une géographie bienveillante, c'est aussi dans le bosquet du Théâtre d'Eau, dans les jardins de Versailles, que vous avez reconstruit. Ça va ouvrir en 2014. Vous êtes en train de travailler là-dessus avec Jean-Michel Ottoniel, oui, qui fait les sculptures en verre. Comment vous avez conçu ce projet?
Oui, alors là, je ne suis plus dans une géographie, parce que la géographie de cette parcelle, qui est 1,5 hectare, c'est une pente vers le nord, et une pente qui avait été utilisée par le nôtre pour avoir des jeux de cascades. Il n'y aura plus de cascades, mais deux bassins, parce qu'il y aura toujours de l'eau, des fontaines qui sont donc faites par Jean-Michel. Les fontaines seront placées comme quatre groupes des fontaines de ce bosquet. Il y en avait plusieurs. Il y avait la fontaine de l'amour, qui était plutôt dans le dos, où rien ne se passe. C'est une allégorie et un hymne à Le Nôtre et à Louis XIV. Alors, je ne sais pas
c'est
si j'ai réussi.
C'est le 400e anniversaire de Le Nôtre.
Exactement. C'était très difficile. Je ne me sens pas conceptuel du tout. J'ai probablement été pour la première fois de ma vie intrigué par le sens qu'il fallait essayer de donner à un endroit où on est. On peut être n'importe où. Dans un bosquet à Versailles, on est dans des palissades d'arbres qui sont plus hautes. On aperçoit encore la chapelle du château aujourd'hui dans le vide. Une fois que ce sera planté d'arbres, on ne la verra plus. Mais on pourrait être n'importe où.
Est-ce qu'on est conscient des fantômes du lieu quand on travaille sur un tel projet historique?
Je ne sais pas si on en est conscient, mais en tout cas, moi, je me suis mis dans un état de surconscience. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé, c'était d'essayer de comprendre comment ce que ça avait été fait. C'est comme ça que j'ai demandé à Jean-Michel de venir. C'est qu'il n'y a pas eu un bosquet à Versailles sans qu'il y ait eu des accoquinages et des mariages de créatifs entre eux, puisqu'il y avait des hydrauliciens, il y avait des ingénieurs, il y avait une équipe, on n'était pas seul. Et en plus de ça, en matière d'histoire de l'art, il y a eu Lebrun qui a dessiné des sculptures. Il y a eu plein de gens.
Alors, j'ai envie de vous poser une toute dernière question, enfin, plein d'autres questions, mais là, il nous reste 30 secondes, Louis Benesch. Est-ce que toutes ces merveilles de la nature seraient possibles sans Dieu? Est-ce que vous avez vu Dieu dans les plantes, dans vos voyages?
Je ne sais pas si je vois Dieu, mais c'est des grands moments de spiritualité. C'est de dire qu'il y a eu un créateur, qu'il y a eu un grand... Il y a eu une ordonnance extraordinaire qui nous dépasse. Alors, même si on m'explique tout scientifiquement, si on arrive à me démontrer le Big Bang, ça marche très bien. Et effectivement, je me sens terriblement porté vers quelque chose qui n'est pas matériel, en tout cas.
Louis Benesch, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en vue de notre prochain atterrissage, veuillez redresser votre imaginaire et raccrocher votre curiosité au nom de toute l'équipe, avec aux commandes Fabien Flora, notre réalisateur, Maud Nourry, notre assistante de production, qui a tout mis sur le site pour que vous puissiez même trouver un livre sur Louis Benesch, donc sur francemusique.com. Et Amandine Grévaux était à la technique. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et nous espérons vous revoir la semaine prochaine pour un autre vol de France Musique. Je ne sais pas s'il est encore dans ses boutures en ce moment, mais on retrouve tout de suite les nuits noires de monde avec notre ami Laurent Valero. Bonsoir Laurent.